Au plus près de Dieu, ça vous parle? Depuis le début de l'année, nous insistons sur ce thème. Je pensais avoir fini la dernière fois. Alors que je priais cette semaine pour ce dimanche matin, le Seigneur a encore travaillé mon cœur pour revenir sur ce thème. On va le faire. On va faire quelques rappels parce qu'il y a eu des dimanches qui sont passés depuis. D'abord, relire le texte de base de l'étude qui est dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20, où nous lisons ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Amen. Je résume rapidement parce qu'on avait fait quatre études avant celle-là quand même. Et donc la première étude, en gros, si on se rappelle d'une chose, c'est que dans le tabernacle, dans le temple aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul lieu. D'accord? Lequel? Le lieu très saint, merci. Ce n'est plus le parvis, ce n'est plus le lieu saint, c'est le lieu très saint. On avait vu dans cette étude que malheureusement, le parvis et le lieu saint ont la vie dure. Et que si... L'endroit où nous devons nous trouver, c'est le lieu très saint. Nous sommes souvent dans le parvis ou dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, pardon. Deuxième étude que nous avons faite, c'était à partir de 2 Corinthiens 3, 18. Et je le relis avec vous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Nous avions vu cette nécessité et cette difficulté pour l'être humain de rester dans la contemplation devant Dieu. Ce qui n'est pas évident. Rester dans la contemplation devant Dieu. Et nous avons vu que si nous arrivons à faire cette démarche, ce n'est pas sans conséquence. Nous sommes transformés. Allô, vous êtes avec moi? Oh non, vous n'avez pas l'air du tout d'être avec moi, je recommence. Lorsqu'on contemple le Seigneur, il se passe des choses. Amen. Et le texte nous dit que si nous faisons vraiment cela, nous sommes transformés à la même image que qui? Que Dieu. Waouh! Et il a ajouté quoi? De gloire en gloire. On avait vu que même Alfred Cohen, dans la transcription, dit « Sa gloire devient la nôtre ». Waouh. Ensuite, on avait parlé de Marthe et Marie. Vous vous rappelez? Et vous connaissez l'histoire. Une femme très occupée et une autre qui prend le temps de s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter. Et Jésus va dire ceci à Marie. À Marthe, pardon, qui l'interpelle parce que Marie ne vient pas donner de l'aide. Dans Luc 10, 42, Jésus dit « Une seule chose est nécessaire. » Une seule chose. C'est incroyable ce qu'on se met en tant que chrétien comme liste de choses à faire. Pour être un bon chrétien. Et une liste aussi, ce que je n'ai pas le droit. Et en fait, Jésus, lui, il est très simple. Il dit une seule chose est nécessaire. Venir à ses pieds. Venir à ses pieds. Et tout le reste se fait. Après, on avait étudié la parabole du vrai cep. Je dis bien la parabole du vrai cep. Souvent, on l'appelle la parabole du cep et des sarments. Mais le vrai nom de cette parabole, c'est le vrai cep. Et donc, on avait précisé que s'il y a un vrai cep, c'est qu'il y en a certainement des faux. Et on avait signalé trois faux ceps qui nous égarent. Celui de l'idolâtrie, Ça nous égare du lieu très saint. C'est-à-dire qu'on va chercher ailleurs qu'en Dieu des solutions. On s'éparpille à chercher des solutions humaines. Ou on a des centres d'intérêt plus importants que Dieu, qui nous éloignent du lieu très saint. Il y a le cèpe de la tradition, où on a l'impression qu'on vient dans le lieu très saint, mais en fait on vient accomplir un rituel. Et ça n'intéresse pas Dieu. Et puis on avait vu qu'il y a le cèpe des compromis, c'est-à-dire qu'on est capable de venir en même temps dans le lieu très saint et en même temps de faire n'importe quoi à côté. Ou d'avoir une condition de vie qui n'honore pas Dieu et qu'on laisse traîner. Et puis on avait vu ensuite, là c'est moi qui l'avais ajouté, parce que s'il y a un vrai cèpe, il y a aussi des vrais sarments. Et on avait signalé que c'est le vigneron qui reconnaît les vrais des faux. Ce n'est pas notre rôle à nous, hein, de regarder dans l'église et dire « Alors, tiens, lui c'est un vrai sarment, lui c'est un faux. Ne nous amusons jamais à cela. Occupons-nous déjà de nous, on a assez de travail, non, vous croyez pas ? On veut s'occuper des autres avec tout le travail qu'on a à faire pour nous. Mais en fait, le vigneron lui reconnaît. Il y a quatre critères dans la parabole. Bah, c'est tout simple, hein. L'un est attaché au cep, l'autre ne l'est pas. Ça, c'est simple. L'un est émondé, l'autre est retranché. Il n'y en a aucun qui est laissé tranquille. Mais celui que le vigneron reconnaît comme le vrai sarment, il l'émonde. Je ne reviens pas sur l'étude, vous pouvez les écouter, elles sont sur le site. Hein. L'un porte du fruit, l'autre sèche. Donc ça aussi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jésus. Et puis l'un demeure éternellement, et l'autre est jeté au feu. On avait terminé en disant que cette affaire est très sérieuse. Quand on dit cette dernière phrase, l'un demeure éternellement à la vie éternelle, et l'autre, il est jeté au feu. Vous savez ce que ça veut dire, jeté au feu? Ça veut dire aller en enfer. Donc c'est une affaire très sérieuse. C'est pour ça que Jésus dit une seule chose est nécessaire. D'accord? Je reprends le texte Hébreux 10, 19, 20 avec vous, juste pour souligner une phrase, une expression. Ici donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ok ? J'aimerais qu'on puisse s'entretenir ce matin sur une vérité qui est en lien avec cette liberté-là et dont nous parle Jésus dans l'évangile de Jean. En fait, je pourrais intituler ce message « La vraie liberté en Christ ». Est-ce qu'on sait ce que c'est vraiment ? Vous allez peut-être être étonné ce matin. Qu'est-ce que la vraie liberté en Christ ? Jean chapitre 8, versets 31 à 38. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Qu'est-ce que ça veut dire, vous affranchira ? Ça vous rend libre. Ok ? Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves. » Pouf, l'amnésie là qui les a frappés d'un coup. « Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. On a parlé de Saul. Hein ? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Avec un P minuscule. En fait, Jésus nous parle de deux possibilités ici pour l'être humain. Et je vais reprendre, il y a les ados qui sont là ce matin, je vais reprendre une diapo qu'on a utilisé avec les ados il n'y a pas longtemps. Regardez là. On a deux possibilités. Être esclave, rester dans notre condition d'esclave, ou être libre, ça veut dire fils ou fille de Dieu. Quand on voit ces images, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en haut, vous voyez à l'époque, une époque tristement célèbre de notre histoire, un vendeur qui est là en train de regarder, un acheteur, pardon, qui est en train de regarder pour acheter des esclaves. Et puis en bas, vous avez un père et son fils, radieux, une fille et son père, radieux aussi. Et si je vous dis, vous préférez être quoi ? L'esclave qui est en train d'être observé par quelqu'un qui va l'acheter, ou le fils ou la fille ? Vous préférez être quoi ? Ah, non, mais ils hésitent. C'est un truc de fou, là. Ah ouais. Apparemment, il n'y a qu'Antonin qui est convaincu dans cette église. Mais en fait, c'est pas si étonnant que ça, on va le voir, votre réaction. C'est pas si étonnant que ça. Nous devons comprendre que depuis la chute originelle, l'homme naît esclave. Il lui est impossible par lui-même de sortir de cette condition. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est ce que dit la Bible. On a été étonné avec Valérie d'entendre un psychiatre à la télévision qui commentait cette malheureuse affaire qu'il y a eu de cette jeune fille Louise qui a été tuée à la sortie de son collège. Et quand ils essayaient de lui faire dire « Mais comment un gars a pu faire ça ?» Et il a expliqué « Mais l'homme est violent de nature. Il ne sait pas contrôler sa violence. » J'ai dit « On a lu la Bible ou quoi ?» Parce qu'on nous a beaucoup parlé d'humanisme, hein, et que l'homme, il est extraordinaire. Mais on voit ça. Hein. Jésus le rappelle dans le texte « Quiconque se livre au péché » est esclave du péché. Se livrer au péché, c'est quoi ? C'est ne pas être dans le lieu très saint. C'est ça la réponse. Parce que nous, on dit le péché, ah, t'as menti, t'as péché. Ah, t'as... C'est pas ça le péché. Le diable, il nous amuse avec ça. Et nous, on essaye de rayer de la liste. Ah tiens, je mens plus, ça y est. Ah, je regarde plus des choses impures à la télé. Ah, je me suis amélioré. Rien à voir. Ne pas pécher, c'est faire exactement la volonté de Dieu. Lorsqu'il est dit de Jésus qu'il était sans péché, c'est que à chaque milliseconde de sa vie, il a toujours accompli la volonté de son Père. Il n'y a que lui qui a réussi à faire ça. Si quelqu'un a réussi, qu'il lève la main, il faudra que je parle avec lui, parce qu'il y aura un deuxième Jésus, donc ça m'intéresse. Deux grandes figures dans la Bible. David et Paul, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Regardez ce que dit David dans le psaume 51,7. « Moi, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est clair ? Et puis Paul, qui dira, Romains 7, la fin du verset 14 et verset 15, « Moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. » Et je fais ce que je hais. Vous connaissez la suite, hein, du chapitre 7. Et puis, Paul, ce même Paul, il ne parle pas que de lui, il parle de nous aussi. Parce que l'on dit, ah, c'est Paul et David. Et regardez ce qu'il dit dans le même livre, Romains 3, 10 à 12. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Désolé, hein. S'il y a quelqu'un qui a cru être intelligent au milieu de nous. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. On est dans ce qu'on est en train de parler. Nul ne veut aller dans le lieu très saint, par sa propre nature. Ce n'est pas un lieu qui nous attire. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc acceptons-le, nous sommes esclaves par nature, esclaves du péché. Mais le message de ce matin est de nous dire qu'il y a pour tous ceux qui se reconnaissent esclaves, parce que c'est le point de départ. Le problème des pharisiens à qui sont adressés Jésus, c'est qu'ils ont dit « Nous, esclaves ?» Pas du tout. Le point de départ, c'est reconnaître qu'on est esclave. Si vous voulez être libéré de l'esclavage, si vous ne reconnaissez pas que vous êtes esclave, vous ne serez jamais libre. Ouais, imaginez un gars à l'époque de l'esclavage, hein, on le fouettait, tout ça, on lui disait « Alors, tu veux être libéré ? » ?»« Oh, mais je ne suis pas esclave. » Ce serait juste aberrant, non ? Mais nous, on est capable d'être aussi aberrant que ça. Tous ceux qui se reconnaissent esclaves et qui croient au fait que par sa mort à la croix, Jésus a ouvert la porte de la maison de son Père, il y a une possibilité de devenir libre. Amen. En devenant fils. En devenant fils ou fille. C'est une proposition qui est faite à des esclaves. Oh, bon, ça vous réjouit, c'est extraordinaire. Oh, on est esclave et Dieu dit, je veux que tu sois mon fils. Non, mais c'est extraordinaire, non ? Alléluia, gloire à Dieu. Jésus précise, l'esclave ne demeure qu'un temps dans la maison. Il peut en être renvoyé. C'est l'image de l'ancienne alliance. Le fils, lui, il y est chez lui. Il ne peut pas être renvoyé. Il est propriétaire de tout. Il est héritier. Il est là, dans, chez lui. Ça, c'est l'image de la nouvelle alliance. Ce à quoi nous sommes appelés dans la nouvelle alliance. Vous réalisez le contraste entre l'ancienne et la nouvelle. On va voir toutes ces choses. Premièrement, deux points. Le premier point, Jésus nous offre cette liberté. C'est Jésus qui nous offre cette liberté. Je veux que ce soit clair dans nos têtes. On a parlé du lieu très saint. Bien sûr, on a évoqué l'œuvre de Jésus à plusieurs reprises. Mais je veux bien que ce soit clair. Rien n'est possible sans l'œuvre de Jésus-Christ. Dans le texte de Jean, quand il est dit que la vérité nous rendra libres, ça veut tout dire et ne rien dire si on n'approfondit pas. La vérité, c'est Jésus. C'est pas la parole, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus, c'est lui qui nous rend libres. Amen. Dans Jean 14, 6, il déclare « Je suis le chemin, la vérité » et la vie. Donc Jésus, c'est la vérité. C'est la vérité qui nous a franchis. Amen. Et il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est lui qui a ouvert la route pour aller au Père. Ça, c'est une chose importante. Hein. Souvent, on demande, c'est quoi la différence entre les religions ? Toutes les religions, elles sont bonnes, etc. Je suis tolérant, j'accepte tout, je ne suis pas irrespectueux vers les autres religions, etc. Mais excusez-moi, moi j'ai une conviction, c'est qu'il y a un seul chemin pour aller à Dieu. Donc si les gens n'utilisent pas ce chemin-là, ils n'arrivent pas à Dieu. Ils croient y arriver par des rituels, par tout ça, mais ils n'ont pas de contact avec Dieu. Ou parfois Dieu leur fait grâce et il leur révèle Jésus-Christ. Pour qu'ils puissent vraiment trouver le chemin. Amen. Mais il n'est pas possible. Ce n'est pas une question de le christianisme au-dessus des autres religions. Moi, je m'en moque du christianisme. De la religion, l'institution, je m'en moque, je la balaye. Je veux juste parler de Jésus. Jésus. Amen. Il est le chemin, la vérité, la vie. On ne peut pas aller au Père en dehors de lui. Amen. Cette liberté est celle de pouvoir venir au Père. La liberté que Jésus nous donne, j'en ai entendu des choses. Ah, oh, vous êtes libre, Christ vous a affranchi. Ah, vous êtes libre. Alors avec la liberté, mais on fait n'importe quoi. Mais la liberté qui nous est accordée, c'est de venir au Père. C'est ça la liberté qui nous est accordée. Si tu ne viens pas au Père, tu es esclave. Tu n'es pas libre. Galates chapitre 4, versets 3 à 7. On va revenir sur des paroles de Paul. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous puissions recevoir, je vais dire, l'adoption. Ok ? En fait, on l'a dit tout à l'heure, on est esclave et on nous propose d'être fils. C'est une adoption. Hein. C'est clairement, c'est ça. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils.
Wow.
Lequel crie, écoutez bien, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Wow. Bah, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Seul moyen d'être libre, c'est de devenir fils. C'est un renversement complet de la logique de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu, tu dois le redouter. Dieu, tu ne dois pas t'en approcher. Il n'y a pas de libre entrée dans le sanctuaire. Il est même dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est ça. Jésus vient apporter une totale révolution. Il vient donner la possibilité pour un homme d'avoir une intimité avec Dieu. Parce qu'a vécu Jésus en tant qu'homme. Il était Dieu, il était homme. Et en tant qu'homme, il a vécu une intimité parfaite avec Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus prit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Eh, c'est ça l'intimité avec Dieu. Hein. Ah ouais, là ça nous fait redescendre. Mais ça nous ramène à notre semaine de jeûne et prière. Hein, où on a parlé de soumission, d'écoute, etc. Jean chapitre 10, verset 30, Jésus déclare, moi et le Père, nous sommes un. Et nous sommes appelés à la même chose. Dans Marc chapitre 14, verset 36, Marc est le seul qui utilise cette expression, qui nous retransmet cette expression de Jésus, lorsqu'il a prié à Gethsémané. Et il est dit ceci, il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous connaissez ce texte, mais je voudrais m'arrêter sur la manière dont Jésus appelle son Père. « Abba, Père. » Nous l'avons vu, c'était surligné aussi. Paul a utilisé aussi cette expression dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans l'Épître aux Galates. L'Esprit, il a mis l'Esprit de son Fils en nous, et l'Esprit de son Fils en nous nous fait dire « Abba, Père ». J'aimerais qu'on explique ensemble ce que signifie le mot « Abba ». C'est un mot araméen utilisé par les enfants pour appeler leur père, tout simplement. Donc on pourrait le traduire en français par « papa ». Ok ? C'est un mot en fait qui indique une proximité entre la personne qui l'emploie avec la personne qu'il nomme. D'accord ? Si je dis « Abba » à Dieu, ça veut dire que je vis une réelle intimité, complicité avec lui. Amen ? C'est ça que ça veut dire. Et je vous signale que pour l'époque, c'est choquant de parler comme ça à Dieu. Heureusement qu'il était tout seul, Jésus, là. Personne ne l'entendait. Sinon, ça aurait été les pharisiens, ils seraient encore montés aux branches. Mais Jésus a enseigné ses disciples. Et quand il les a enseignés pour prier, il leur a dit comment vous devez prier. Il leur a dit, vous commencez par quoi ? Notre Père. Alors, ce n'est pas papa, mais déjà, c'est Père. Déjà, ça, c'est révolutionnaire. En fait, c'est prophétique. Jésus est en train de leur dire, maintenant, parce que je vais donner ma vie sur la croix pour vous, vous allez pouvoir appeler Dieu votre Père quand vous allez vous adresser à lui. Ok ? Attention, il précise aussi votre Père qui est aux cieux. Hein. Donc, Jésus, c'est mon pote, Dieu. Calmez-vous, hein. Redescendez. Mais on a cette possibilité de proximité dans un immense respect, une immense soumission. Mais on peut avoir cette complicité et cette intimité avec Dieu. Amen. Dans Galates 4, 6, Dieu, il est dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». On l'a lu tout à l'heure. Donc il nous invite à appeler Dieu avec cette expression et que ce soit une réalité dans nos vies. Amen. Concrètement, deuxième point, les conséquences de cette libération, de cette liberté que nous vivons. On lit un autre texte où Paul utilise l'expression « Abba Père ». Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclave, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, au mien là, que je suis enfant de Dieu. Amen. Et dans Jean 8, Jésus nous disait, l'esclave, Jean 8, 35-36, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. On parle ici, c'est quoi la maison ? C'est le lieu très saint. C'est ça la liberté. La liberté du fils, c'est de pouvoir être dans le lieu très saint. Mais pas juste y passer de temps en temps. Qu'est-ce qui nous est dit ici ? Il est dit, le fils demeure toujours dans la maison. Aïe, aïe, aïe. Là, ça devient compliqué. Nous, on est plutôt du style à faire des allers-retours. Hein. Et attention, si on fait des allers-retours, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Donc, on est encore esclave. Il y a deux possibilités, hein. Dans la Bible, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de entre deux. Je suis en même temps esclave et en même temps libre. Possible ça ? Pas possible. Donc les deux possibilités, tu ne demeures pas toujours dans la maison. Tu y fais que des allers-retours. Alors tu es encore esclave. Donc il faut que tu viennes devant le Seigneur. Hein. Parce que c'est lui qui te libère. Mais c'est pas, reste pas là, dis, oh, il a dit que j'étais esclave, c'est mort. Non ! On a le chemin. On a Jésus qui nous rend libres. Donc tourne-toi vers Jésus. Ou alors tu aimes demeurer constamment dans la maison, tu es réellement un fils alors, tu es réellement une fille. On peut se tromper hein, en déclarant « Je suis réellement libre en Christ ». On peut se tromper, j'ai entendu des dizaines de prédications là-dessus où on raconte, franchement, on raconte n'importe quoi. Ah oui, je suis libre de m'épanouir, je suis libre de faire ceci, de rentrer dans mon potentiel, etc. Et tous les trucs qu'on n'entend pas. Et les gens, ils croient qu'on va être libre comme ça. Mais la seule liberté, c'est de venir au pied du maître. C'est là que tu deviens libre. C'est lui qui te rend libre. Tu es libre de vivre constamment dans la maison du Père. C'est ça la liberté que Jésus est venu nous accorder. Tu as une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée qui ne veut pas dire tu peux venir quand tu veux. Non, une libre entrée qui veut dire tu rentres et tu restes. Amen. Ça interpelle. Hein. C'est le peuple d'Israël. On le disait tout à l'heure, quand vous avez hésité à répondre à ce que vous voulez être esclave ou fils, vous savez que le peuple d'Israël, il a hésité, lui. Hein. Il a été libéré de l'esclavage. Vous savez, toute l'histoire de Moïse, passage à mer Rouge, c'est quoi ? Bah, c'est l'histoire de ce que Jésus va faire. Il nous libère de l'esclavage du péché, il nous rend libre, il nous affranchit. Voilà tout ça. C'était déjà symbolisé dans le passage de la mer Rouge. Et ce peuple qui devient libre, waouh ! Ils ont dansé ! Ils étaient contents ! Et puis, quelques temps après, « Oh, Moïse, t'aurais pu nous laisser en Égypte. Hein. » C'était quand même mieux quand on était esclave. Incroyable. Incroyable. Vous savez qu'on est comme ça, nous ? On regarde avec envie les esclaves de ce monde. Non ? Vous n'avez jamais regardé l'autre qui a une super bagnole ou je sais pas quoi ? Bref. Je ne fais pas la liste parce que sinon, ça va être dérangeant. Combien on peut se tromper en déclarant que en Christ je suis réellement libre. Et attention de ne pas prononcer le mot papa si on ne vit pas vraiment l'intimité. Mon papa, je l'entends aussi. Hein. Alors c'est pas moi qui juge quels sont les vrais et les faux serments. Mais attention, si tu appelles Dieu papa, ça veut dire que tu demeures dans la maison. Que tu es vraiment proche de Dieu, pour de vrai. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu vis vraiment dans la maison? C'est ça la question que le Seigneur te pose ce matin. Est-ce que tu peux déclarer comme David, vous rappelez, on l'avait signalé ce texte, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Si tu es fils, si tu es fille, tu es quelqu'un qui vit au plus près de Dieu. Amen. Dans son intimité. Tu es friand des temps de prière. Tu es friand des temps de méditation de la parole. Non seulement dans tes cultes personnels, mais aussi dans l'assemblée des croyants. Oui. Et oui. Alors vous savez, les cultes personnels, déjà, j'ai dans les mains, il faudra que je partage ça avec vous quand même, parce que je pense que c'est important. La Fédération protestante de France a fait un sondage. Il y a des choses qui sont vraiment préoccupantes, je vous annonce. C'est très préoccupant, l'avenir du protestantisme, en général, et des évangéliques y compris. Très étonné par ce sondage. Très étonné. Et ne loupe pas les choses habituelles, une nette régression de la fréquentation des églises. Dans les milieux évangéliques, je parle, hein, pas l'église protestante luthérienne, je parle des milieux évangéliques. Nette diminution de la fréquentation des réunions d'église, notamment les réunions de semaine, et de moins en moins de chrétiens qui lisent la Bible, personnellement. Pas étonné de voir les statistiques. Hein. Pas étonné, puisqu'on l'a sous nos yeux, hein, quand on est pasteur. Si tu es fils, tu es fille, tu es quelqu'un qui vit au plus près de Dieu, qui aime ça. Qui aime ça, n'a pas besoin de te forcer. Ah, il faut venir à la réunion de prière. Oh, les jeunes, là, oh, qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on prie ensemble, là. Vous vous rendez compte, c'est incroyable que les pasteurs aient à dire ça. C'est vraiment incroyable. Et même des fois, on vient voir les pasteurs en disant, oh, laisse-nous tranquille, oh. On est libre en Christ. Mais c'est ça aujourd'hui. Hein. Alors avant, il y avait l'effet inverse, c'était les pasteurs qui menaient tout à la baguette. Hein. Et vous savez, les hommes, ils font le balancier tout le temps. Hein. C'est soit un excès, soit l'autre. Donc maintenant, les pasteurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tout le monde s'en fout. Moi, je fais ce que je veux. Mais vous savez, nous, on n'oblige personne. Mais c'est notre devoir. Moi, je dois rendre des comptes à Dieu plus tard si je ne vous exhorte pas à être présent aux réunions de prière de l'Église. Si je ne vous exhorte pas à avoir un culte personnel, à lire la Bible, à l'étudier personnellement, je dois rendre des comptes à Dieu si je ne l'ai pas fait. Après, si je l'ai fait et que vous ne l'avez pas fait, c'est vous qui rendrez les comptes. C'est plus pareil. Je conclue. Pourquoi est-ce si difficile de devenir fils? Alors que ça devrait être facile. Non? On vous dit, t'es esclave, est-ce que tu veux devenir fils? Oh oui, super! Mais c'est difficile. C'est difficile. On voit la réaction des pharisiens. Jean 8, 33. Nous sommes la postérité d'Abraham. On se prend toujours pour quelqu'un. Et on croit qu'on n'est pas esclave. Donc on n'a pas besoin. Combien de gens, ici, en France, estiment qu'ils n'ont pas besoin de Jésus? Mais ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils se sentent libres. Moi, j'ai toujours cette image. Je suis libre. C'est un exemple parmi d'autres. Parce que ça pourrait être « Je suis libre. » Mais je suis musclé du pouce aussi. Toujours dans Jean 8, Jésus dit « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Je veux m'arrêter sur ça parce que, vous savez, On a parlé de Paul cette semaine, enfin de Saul plutôt, au moment où il partait pour persécuter les chrétiens. Vous savez, il n'y a pas besoin de tuer les chrétiens pour être quelqu'un qui est égaré. Hein. Mais par nos attitudes, on peut faire mourir Dieu. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Lorsque Dieu est dans le lieu très saint et qu'il m'attend, il meurt. Il meurt de tristesse et de peine. Et je suis interpellé autant que vous. Ne croyez pas que je vous donne la leçon. Chaque fois qu'on passe à côté, il dit ma parole ne pénètre pas en vous. Mais c'est essentiel ça. Si la parole de Dieu ne vient pas pénétrer là, il n'y a pas de changement possible. Mais comment elle peut venir pénétrer? C'est quand vraiment on est arrivé à cette complicité, cette proximité avec Dieu. C'est là que la parole nous touche. Quand on est loin de lui ou qu'on vient le voir que de temps en temps. Mais il faut arrêter de croire qu'il va se passer quelque chose. C'est dans une intimité réelle, proche, qu'on voit les choses se passer. Et il leur dit, moi je vous parle de ce qu'a dit mon père, vous parlez de ce qu'ont dit vos pères, c'est-à-dire qu'eux ils sont encore dans ce que leurs pères leur ont transmis, les traditions, la religiosité, tout ça. Ils sont attachés à ça, ils croient qu'avec ça c'est bon. Mais non, mais ça nous donne rien. Mon patrimoine génétique, ma culture, mes certitudes, mes convictions, tout ça c'est des freins à ma liberté. La seule liberté, elle est quand j'abandonne ma vie à Jésus-Christ. Amen. Dans Romains 6, 22, Paul termine par ceci, vous allez comprendre en fait, la difficulté. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu fils, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. Regardez bien ce texte-là. Lisez-le. Si je deviens esclave de Dieu, c'est quoi la conséquence? La sainteté et la vie éternelle. Waouh! Vous connaissez des gens, des maîtres qui proposent ça à leurs esclaves, vous? Ça me fait doucement rire. Donc là, on vous propose d'être esclave de Dieu ce matin. Ah, vous attendiez peut-être pas ça. Mais être libre, c'est être esclave de Dieu. Être vraiment libre, c'est être esclave de Dieu. On n'est pas dans la logique des hommes, là. On est dans la logique du royaume de Dieu. Être libre, c'est être esclave de Dieu. Amen. Le seul qui a été réellement libre en tant qu'homme, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il était esclave de son Père. Et il a tout accompli parfaitement. Quand il dit « tout est accompli », on en fait dire des choses aussi à cette parole. « Tout est accompli ». Au moment où il dit ça, quelques minutes après, le voile est déchiré. Tout est accompli, ça veut dire ça y est, j'ai rétabli à nouveau la relation entre l'homme et mon Père. Et il est libre de pouvoir venir dans le sanctuaire et de vivre cette intimité. Il peut appeler Dieu Papa. Amen. Mais ça, c'est une réalité qu'on doit vivre. Ce n'est pas juste des choses marquées sur le papier qui font bien. C'est une réalité qu'on doit vivre. Si je veux dire Abba Père, ça veut dire que j'ai vraiment une vie de proximité, d'intimité avec lui. Amen. Est-ce que vous voulez pouvoir dire Abba Père, mes frères et sœurs? Est-ce que vous voulez vouloir dire Abba Père? Est-ce que ça doit être un objectif pour nous de pouvoir le dire en vérité? Amen. On prie, on incline nos têtes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de m'avoir conduit dans ces choses, Seigneur. Alors que je priais cette semaine. Moi-même, tu m'as interpellé largement. Et Seigneur, je te bénis parce que, oui, tu n'en as pas fini avec nous. On veut, pardon Seigneur, pour toutes les fois, on est comme les juifs pharisiens auxquels s'est adressé Jésus. On dit, mais ça y est, je ne suis plus esclave. Tout va bien. Seigneur, je veux être capable de m'humilier encore devant toi. De reconnaître que j'ai du mal. J'ai du mal à rester dans la maison. J'ai les pieds qui me démangent pour aller à droite, à gauche. Seigneur, apprends-nous à rester dans la maison. Avoir l'attitude du fils, non pas l'attitude de l'esclave qui vient, qui rentre, mais l'attitude du fils qui reste et qui demeure dans la maison. Seigneur, viens faire ce miracle en nous. Merci parce que tu es Jésus. Tu es ce chemin, cette vérité qui mène au Père. Amen. Et tu nous donnes cette possibilité de vivre cette intimité. J'aimerais vous encourager ce matin, peut-être en vous levant à votre place. Et puis, on va prier ensemble. Est-ce que des frères, des sœurs veulent aller plus loin encore dans la proximité, l'intimité avec Christ? Est-ce qu'on veut continuer dans ce que le Seigneur nous exhorte depuis le mois de septembre? Et peut-être dire, Seigneur, je veux encore aller plus loin. Oui, j'ai commencé à faire des choses, mais je me rends compte, Seigneur, que tu attends encore plus de moi. Et sachez-le que jusqu'à votre dernier souffle, Dieu attendra toujours plus de vous. Amen. Hein, on dit, Seigneur, je veux plus de toi, mais c'est Dieu qui nous dit, je veux plus de toi. C'est lui qui s'adresse à nous et qui dit, je veux plus de toi. Nous, on n'a pas besoin de lui dire, je veux plus de toi. On a tout en lui. On a tout en lui. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je veux plus de toi. Mais lui, il nous dit, je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi. On prie ensemble. Seigneur mon Dieu, nous portons nos vies devant toi. En toute humilité, nous venons devant toi. Et nous reconnaissons que nous sommes esclaves. Seigneur, viens. Viens encore faire ton œuvre. Conduis-nous, Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous dans la maison et donne-nous cet amour pour la maison afin qu'on ne la quitte plus. Au nom de Jésus, nous prions que cette église avance, que cette église soit un témoignage dans tous les endroits où tu nous places, Seigneur. Dans cette ville de Colomiers, à l'île Jourdain, mais aussi dans les endroits où tu nous as placés, là où nous habitons les uns les autres. Seigneur, sans cette proximité avec toi, nous ne pouvons pas être des témoins. Mais si nous vivons cette proximité, alors ta lumière va briller en nous. Sois glorifié, sois béni. Merci de bénir mes frères et sœurs. Merci de bénir cette assemblée. À toi la gloire, Seigneur. Sois glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez prier quelques instants les uns les autres. Adressez-vous à Dieu, là à votre place. Adressez-vous à lui. Remerciez-le. Remerciez-le d'avoir ouvert la porte, l'entrée du sanctuaire. Remerciez-le. Demandez-lui pardon si nécessaire et faites-lui un vœu, celui de rester toujours dans la maison. Alléluia.